ramasse un livre dès la première page. Je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passé, présent et parfois même futur. Un livre ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup.
Un livre ? Oui, mais quel livre ? Avec l'Oiseau des Lires, nous sommes là pour vous aider, vous conseiller et vous faire découvrir nos coups de cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet délicat qui est la violence faite aux jeunes filles dont on abuse de la confiance. Le premier livre est un roman de Nastassia Rugani aux éditions École des Loisirs. Tous les héros s'appellent Phénix. Phénix, c'est l'héroïne du roman. Elle vit avec sa mère Erika et sa sœur Sacha dans une maison coupée du monde. Le père est parti un matin sans laisser d'adresse. Depuis, Erika a démissionné de son rôle de mère. Un soir, Phénix et Sacha sont au bord de la route. Leur vélo vient de les lâcher. Obligés de continuer à pied jusqu'à la maison qui se trouve relativement loin. C'est alors qu'une voiture arrive. Phénix est prudente, mais Sacha espère qu'il s'agit d'une célébrité ou même d'un génie. Mais c'est seulement le professeur d'anglais charismatique de Phénix, Monsieur Smith. Une chance ! Elles acceptent d'être accompagnées. Sacha s'entend aussitôt avec l'intrigant professeur. Phénix en est ravie, même si elle n'ose prononcer un mot. Elles décident alors toutes deux d'élaborer un plan pour que Jessup Smith et leur mère se rencontrent. Les choses se précipitent. En voici un extrait. Lorsque la porte s'ouvre enfin, Erika a la main posée sur l'épaule de Jessup, la tête en arrière et un grand éclat de rire illumine son visage. Sa voix est un peu plus haut perchée qu'à son habitude, et mon professeur d'anglais n'a jamais eu l'air plus satisfait. On dirait une publicité pour du shampoing. Ma sœur exécute sa fameuse danse de la victoire, un mouvement du bassin accompagné d'un moulinet des bras. Dans la voiture, Erika et Sacha vantent les nombreux mérites de Jésus Jessup, comme elles le nomment. On les croirait envoûtées. Je me surprends à trouver leurs intonations mielleuses aussi pénibles qu'une craie mal inclinée sur un tableau. Je l'aime bien moi aussi, seulement tout se précipite. Erika était censée le rencontrer et non tomber amoureuse de lui. Or, j'ai l'impression d'avoir assisté à la naissance d'un coup de foudre. Notre mère affiche perpétuellement son sourire béat d'adolescente. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir vue se comporter ainsi en compagnie de papa. Jessup dit que tu pourrais intégrer une université prestigieuse si tu utilisais tout ton potentiel, annonce-t-elle fièrement. Mon potentiel, à savoir mon temps libre, je lui ai répété 100 fois que je n'avais pas l'intention de le gaspiller inutilement. Je préférerais me faire transpercer par une colonie de pies écorcheuses plutôt que remplir des dossiers d'inscription pour des facultés encombrées de cloportes prétentieux. Papa me soutiendrait s'il était là. Jessup dit que Sacha et toi êtes de loin les jeunes femmes les plus intelligentes qu'il ait jamais connues, poursuit-elle. Il n'a pas eu la chance de rencontrer Rimbaud, qui avait déjà écrit Le Dormeur du Val à mon âge. J'arrive à peine à distinguer une rime croisée d'une rime embrassée. Sacha s'intéresse à tout, c'est elle le futur prix Nobel. Seulement, elle n'est pas plus un singe savant que je ne suis une bête de foire. Erika a la fâcheuse manie de nous brandir tels des trophées. Je déteste avoir l'impression d'être son faire-valoir. Afin de masquer mon exaspération, je me focalise sur les bouquets d'arbres éclairés par les lampadaires. « Jessup pourrait venir dîner à la maison un de ces soirs, » suggère-t-elle. « Qu'en dites-vous » « J'y pensais, » s'écrie Chat. « Il faut absolument qu'il voie notre collection de coléoptères. » Je garde le silence, mais constate avec stupéfaction qu'Erika a l'amabilité de nous consulter avant d'agir. Cela n'est arrivé qu'une fois, le lendemain du départ de papa. Elle était tellement perdue qu'elle nous avait demandé de choisir entre partir en colonie de vacances ou rester seule à la maison. C'est dire combien Jésus Jessup lui a bouleversé le cœur. C'est à ce moment que tout se précipite. Tout se passe parfaitement bien entre Erika et Jessup, si bien que quelques semaines plus tard, il s'installe à la maison. Il est passé de professeur d'anglais charismatique à professeur d'anglais un peu trop strict. Personne n'a l'air de remarquer le changement, encore moins Erika qui est aux anges depuis son arrivée. Jessup change de comportement uniquement lorsqu'elle est absente. Phénix, siffle-t-il entre ses dents. Inutile d'en dire plus. Je connais ce ton de caporal. Je l'ai copieusement entendu ces derniers temps. À croire que tout ce que je fais lui déplaît. Je me dépêche donc d'engloutir le reste du lait chocolaté. Seulement, juste avant d'arriver à l'évier, je trébuche et le bol m'échappe des mains. La mixture éclabousse le pantalon de Jessup avant de se répandre sur le plancher. Les morceaux du bol brisés à ses pieds. Au lieu de saisir une éponge, je m'immobilise. Un mauvais pressentiment grouille au fond de mes intestins. Jessup ferme les yeux, prenant sûrement la mesure du temps perdu à changer de pantalon. J'attends les reproches, prête à lui demander pardon. Silence. En un éclair, sa main rencontre ma joue. Ou peut-être est-ce son poing, car la collision est plus brutale qu'un coup de massue. Sa force est telle que je me cogne la pommette contre l'encadrement de la fenêtre ouverte. La douleur enflamme la moitié de mon visage, et mon cœur bat si vite que j'en ai mal à la poitrine. Abasourdi, je me retiens de rire tant le geste est absurde, comique même. « Il a juste glissé, me dis-je. Il n'est pas encore habitué au dangereux parquet, à l'endroit où notre mère cire ses escarpins. Il a déjà trébuché sur moi, la fois où nous peignions le salon. Il n'a pas pu faire exprès. » Pourtant, relevant mon visage embrasé, je ne vois aucune lueur au fond des pupilles de Jessup. Juste du dégoût et quelque chose de bien plus dangereux qu'un loup affamé. « Ça t'apprendra, » déclare-t-il, les mâchoires serrées. « Ça t'apprendra. Une fois de plus. » Son coup de pied était donc un véritable avertissement. Je n'ai jamais reçu de gifle, pas même une fessée. Erika dit que les enfants ne sont pas des chevaux, qu'il est inutile de les éperonner puisqu'ils parlent le même langage que les adultes. Soudain, prise de panique, je m'accroupis afin de ramasser les morceaux de faïence. Mes mains frémissent à quelques centimètres des chaussures de Jessup, noyées dans une flaque de lait. Ses genoux touchent alors le sol et ses mains, assurées et robustes, m'aident à rassembler les débris. Je suis des yeux, les manches de sa veste traînant sur le sol humide, se tâchant au fur et à mesure que ses doigts épongent. Ses mêmes doigts sur ma joue quelques secondes plus tôt. Je les entends claquer encore et encore. « Allez, ne fais pas cette tête, » dit-il gentiment. Tout à coup, son haleine chaude brûle le haut de mon crâne sur lequel il dépose un baiser avant de disparaître. Que croit-il? Un geste tendre et on oublie? Je prends soin de compter ses 13 pas rapides dans les escaliers avant de me relever, chancelante et l'esprit plus nébuleux qu'un ciel de traîne. Je suis au bord d'un précipice, mais ce ne sont pas les larmes qui me font suffoquer. Je suis bien trop furieuse pour pleurer. J'enrage contre moi-même, à tel point que j'en ai le souffle coupé. J'enrage d'être muette, de supporter ses sautes d'humeur, ses reproches blessants et ses sanctions démesurées depuis le coup de pied. J'angoisse chaque jour un peu plus de me retrouver seule avec lui. À dire vrai, il me terrifie. Je n'y peux rien. La moindre particule d'air que je respire, avec difficulté, est imprégnée de peur. Une peur qui m'affaiblit. Plutôt que de m'élever au-dessus de la colère de Jessup, je m'y enterre pareil à la première victime d'un film d'horreur. Celle qui entre dans la grotte sans lampe électrique. Celle qui meurt en premier. Je suis lâche et ça m'écœure. J'ai l'impression d'avoir 5 ans à nouveau, quand une branche au dehors avait la forme d'une main crochue, prête à me griffer, et que je n'osais pas même appeler papa tant l'effroi me paralysait. Enfant, j'avais la naïveté de croire qu'une lourde couette me rendrait invincible contre un monstre imaginaire. Or, aujourd'hui, je sais que je dois faire face à un beau-père bien réel. C'est la dernière fois, je songe, chassant les questions et les frayeurs. Je dirai tout à Erika. Pendant tout le roman, on espère que Phénix va enfin parler à sa mère. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pas une seule fois, elle arrive à lui dire quoi que ce soit, car Jessup est beaucoup plus rapide qu'elle. On s'inquiète énormément pour elle. C'est un roman très dur, avec des passages difficiles. Un roman sur la confiance aux autres, mais également en soi. Le deuxième roman que je vais vous présenter est un polar nordique de Magnus Nordin, Les Anges de l'Abîme, aux éditions d'Urwerk. Alice vient d'arriver dans une nouvelle ville. Elle déménage pour la 5e fois. Elle a encore une fois changé d'identité car sa mère et elle sont traquées par son père depuis que ses parents se sont séparés. Mais très vite, une enseignante va la prendre sous son aile. Molly lui propose alors de venir chez elle le dimanche après-midi pour boire le thé. Ce qu'Alice trouve assez bizarre, mais elle lui confie qu'elle n'est pas la seule à avoir vécu des choses terribles, ce qui intéresse beaucoup Alice. Elle fait alors la rencontre de 2 personnes qui sont recueillies par Molly également. Ils souhaitent tous 3 qu'elles rejoignent leur groupe, les Anges de l'Abîme. Ce sont des justiciers qui récoltent des preuves sur des pervers du net afin d'aider la police. Leur première intervention se passe bien. Un professeur de musique est arrêté pour avoir abusé de plusieurs de ses jeunes chanteuses. C'est lors de la 2e intervention que tout dérape. Après quelques secondes de silence, Eric hocha la tête. « Parfait, je vais tout vous raconter. » Tout a commencé avec ces quelques films que je mettais en ligne sur le net. Rien de pornographique, juste des jeunes filles qui posaient devant la webcam. J'ai fini par entrer en contact avec un mec qui aimait beaucoup mes vidéos et il m'a demandé si j'en avais d'autres. En échange, Il m'a promis l'accès à des trucs, je cite, « d'excellente qualité ». Il fallait juste que je m'inscrive à un forum qu'il décrivait comme une sorte de club exclusif réservé à des hommes qui assumaient leur goût particulier. Pour en faire partie, il fallait être invité par un membre. Il m'a donc promis qu'il se porterait garant pour moi. Il s'interrompit brusquement, comme s'il avait soudain pris conscience des horreurs qu'il venait d'avouer. « Continuez, » dit Molly, imperturbable. Bref, quelques semaines plus tard, j'ai reçu un email de mon contact. Il venait de mettre une nouvelle vidéo en ligne sur ce fameux forum. J'ai téléchargé le fichier, et quand je l'ai regardé, j'ai reconnu cette fille qui avait disparu. « Vous voulez dire Ada ? Il a fait une vidéo avec elle ?» Eric hocha la tête. Il l'a filmée tandis qu'il l'a violée. Il portait une cagoule. Mais j'ai reconnu la chambre, donc j'ai tout de suite su de qui il s'agissait. « Comment ça, vous avez reconnu la chambre ? Vous y êtes déjà allé ?» Eric hésita, mais finit par répondre. « C'était il y a plusieurs années, avec une autre fille. « Elle aussi, vous l'avez filmée ?»« Et vous avez diffusé la vidéo aussi ?»« Cet homme cagoulé, comment s'appelle-t-il ? Nous l'appelions le bougre, mais je ne vous dirai rien de plus, sauf si vous acceptez mon marché. » Molly se redressa et tendit le bras vers Samira. « Passe-moi le taser. »« Pourquoi faire ? Passe-moi le taser, tout de suite. » D'un geste hésitant, car Samira avait toujours du mal à se séparer de son arme, elle s'exécuta. Mais elle se demandait vraiment ce que Molly comptait en faire. « Et tu n'es pas la seule, » se dit Alice. « Pourriez-vous sortir un instant, s'il vous plaît ?» Alice était déconcertée, pour ne pas dire confuse. Molly était en train d'enfreindre l'une des lois fondamentales du groupe. Toutes les décisions devaient être prises conjointement. De manière démonstrative, Molly ouvrit la porte de la cellule et attendit que les autres quittent la pièce. « Je n'en aurai pas pour longtemps. » Dès que la porte se referma derrière eux, Samira retira sa cagoule. Elle voulut fumer une cigarette, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle ne parvint pas à l'allumer. Elle était choquée, pour ne pas dire furieuse. « Mais qu'est-ce qui lui prend, bon sang ? Je croyais que nous formions une équipe. » Hans, qui lui aussi était tête nue, s'essuya le front de la main. « Je ne comprends pas. » Alice non plus ne comprenait pas. Cela ne ressemblait pas du tout à Molly. « Pourquoi souhaite-t-elle ne pas avoir de témoins ?» se demanda Alice. « Quelles sont ses intentions ? Quel secret cache-t-elle ? » Elle regarda par le Judas. Molly avait retiré sa cagoule et libéré ses dreadlocks blondes. Son visage était si proche de celui d'Eric qu'il semblait fusionner dans la pénombre. Ses lèvres touchaient presque l'oreille d'Eric, comme si elle lui confiait un secret. Mais le taser était toujours pointé contre la tempe de celui-ci. « Que se passe-t-il ? » Alice n'avait pas remarqué que Samira tentait de regarder par-dessus son épaule. Aucune idée. Tout à coup, le taser émit un éclair. Les projectiles se plantèrent directement dans la tête d'Eric, qui hurla si fort que le son traversa la porte blindée. « Merde !» dit Alice paniquée. Molly rechargea son arme et se pencha de nouveau sur l'oreille d'Eric. Des larmes mêlées de morve coulèrent sur les joues et le menton de l'homme ligoté. Le fauteuil était tout entier secoué par ses spasmes. Molly fit un pas en arrière, le mit en joue et tira de nouveau. Après cet incident, les trois anges de Molly décident de mener l'enquête par eux-mêmes. Car Molly, à la suite de ce qui s'est passé, est enfermée et on attend qu'elle puisse sortir. Ce qu'ils découvrent est pire que ce qu'ils avaient imaginé. Courage, Alice, il faut que tu regardes ça. Mais Alice n'était pas sûre de pouvoir y arriver. Cette vidéo était la pire chose qu'elle n'avait jamais vue. À ce moment-là, son dégoût des hommes n'avait d'égal que son empathie pour la jeune victime. Bon sang, ils ne lui ont rien épargné. Même si l'enfance d'Alice avait été marquée par la violence des hommes, elle n'en avait jamais été la victime directe. Son père n'avait jamais levé la main sur elle, pas même cette fois où Alice lui avait asséné un coup de cafetière sur le crâne pour protéger sa mère. Ce jour-là, les pouces de son père avaient laissé de telles contusions sur le cou de sa mère que cela avait permis de convaincre les juges que la place de cet homme était en prison. Cependant qu'Alice n'ait jamais été frappée par son père ne signifiait pas qu'elle était sortie indemne de cette épreuve. Alice était une survivante, comme le disait Molly. Ces événements l'avaient endurcie et elle avait fini par se bâtir une carapace pour ne plus jamais se laisser abattre. Et depuis, elle avait toujours été très sensible à la souffrance des autres. Ainsi, voir cette pauvre fille subir ces horreurs fit saigner son cœur, tout comme le spectacle épouvantable de l'agression de Ronja. Et lorsqu'elle vit enfin ce que Hans avait découvert, en zoomant sur l'image, le malaise d'Alice tourna au vertige. Je vous laisse découvrir la suite par vous-même. C'est un très bon polar que j'ai lu en une soirée, et surtout une leçon concernant les rencontres que l'on peut faire sur Internet.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit.